France Inter.
Bienvenue à tous. À la une de ce 13h. À Londres, la police écarte le motif terroriste après l'attaque au couteau qui a fait 10 blessés dont 2 graves dans un train qui roulait hier soir vers la capitale du Royaume-Uni. Nous serons en direct de Londres. Nous irons en Syrie voir à quel point la communauté minoritaire alaouite subit les foudres des sunnistes depuis la chute du régime de Bachar al-Assad. En France, l'enquête sur le casse du Louvre il y a 15 jours, la procureure de Paris affirme que le commando n'a pas profité de complicités internes au musée. 3 personnes sont désormais écrouées. Dans ce journal également, des poupées sexuelles d'apparence enfantine proposées à la vente sur le réseau Shein. Mauvaise publicité à 3 jours de l'ouverture en France de la première boutique physique. Le tennis avec la finale du Masters 1000 de Paris, ce sera à 15h entre l'Italien et Yannick Sinner, favori, et le Canadien Félix Auger-Aliassime. Enfin, attention aux baïnes dans les Landes. On verra que même hors saison, les baigneurs peuvent compter sur la vigilance des nageurs sauveteurs. Le temps de ce dimanche, Céline Dacosta, avec encore quelques averses cet après-midi.
Oui, des averses parfois orageuses, du vent, mais aussi le retour de larges éclaircies.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. Dans le train qui les conduisait à Londres hier soir, certains passagers ont d'abord cru à une plaisanterie d'Halloween quand quelqu'un a crié qu'il fallait fuir le wagon. Mais l'horreur était bien réelle. L'attaque à l'arme blanche a fait 10 blessés, dont 2 sont encore ce matin dans un état critique. 2 personnes ont été arrêtées. Bonjour Gaëlle Joly.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Londres et la police vient d'écarter le motif terroriste.
Ah oui, c'est ce qu'elle vient d'annoncer lors d'une conférence de presse. À ce stade, rien ne suggère qu'il s'agisse d'un incident terroriste. Les 2 suspects entendus en ce moment par les enquêteurs sont âgés de 32 et 35 ans, tous 2 de nationalité britannique. Ils ont été arrêtés à la descente du train, moins de 8 minutes après le premier signalement. Ils sont poursuivis pour tentative de meurtre et la police ferroviaire tente de comprendre les motivations exactes des assaillants.
Et la police qui vient aussi de donner des détails sur le déroulement de cette attaque.
Oui, elle a précisé que l'attaque avait débuté environ 10 minutes après le départ du train du nord de l'Angleterre en direction de Londres hier soir vers 19h40. Le convoi s'est arrêté en urgence dans une gare. Les témoins ont rapporté des scènes de violence, des sièges couverts de sang, un passager qui tentait de protéger une fillette, des coups de couteau. Écoutez le témoignage de cet homme diffusé sur Sky News. Il y avait pas mal de monde qui circulait et j'ai entendu quelqu'un dire « Il a un couteau, j'ai été poignardé ». Puis en levant les yeux, j'ai vu les voyageurs avancer dans le wagon pour tenter de s'éloigner des suspects. Tout le monde était paniqué et une personne s'est effondrée sur le sol. Le roi Charles III s'est dit à l'instant horrifié et choqué. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a qualifié hier soir sur X cette attaque d'extrêmement préoccupante.
Gaëlle Joly, correspondante de France Inter en direct de Londres. Nous partons maintenant en Syrie. Car depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, qui appartient à la communauté alaouite, cette même communauté minoritaire est régulièrement menacée, attaquée par les sunnites. Exemple, ce matin, dans le centre de la Syrie, là où un village, le village d'Erzeh, a changé de visage. Historiquement alaouite, ses habitants ont fui en mars dernier. Et aujourd'hui, ce sont donc des familles sunnites venues des localités voisines qui occupent leur maison. À Erzeh, voici ce reportage de Mohamed Erzeh.
À Erzeh, les nouveaux habitants s'installent peu à peu dans les maisons abandonnées. Ils se disent en règle munis de contrats de location. Mais à mesure que les visages changent, une question s'impose. S'agit-il simplement de nouvelles cohabitations ou d'un nettoyage ethnique silencieux? Abdil Mouimé, lui, se défend de toute appropriation.
Les alaouites d'Erzeh ont massacré beaucoup de civils sunnites de ma communauté dans les villages voisins d'où je suis originaire. Tout le monde connaissait leur chef, Abu al-Majid, et ses hommes. C'étaient des tortionnaires, ils enlevaient des femmes. C'est en détruisant nos maisons qu'ils ont construit les leurs. C'est pour ça que, quand le régime est tombé, ils ont tous fui.
Les alaouites, environ 300 familles, ont trouvé refuge à Arjour, à 20 km d'Erzeh. Elles disent ne plus pouvoir revenir, faute de sécurité et de garantie sur leur avenir.
Il n'y a ni sécurité ni protection pour notre communauté. Comment puis-je revenir à Erzeh? Là-bas, j'ai ma maison et mes terres. Ici, je paye un loyer et tout est cher. Je n'ai pas de solution.
Depuis mars, plus de 200 000 alaouites ont été tués sur la côte syrienne, selon des ONG locales. À Erzeh, les nouvelles autorités parlent de réconciliation, mais beaucoup y voient un nettoyage silencieux, une guerre finie peut-être, mais une paix encore introuvable.
Mohamed Erami, correspondant de France Inter en Syrie. Donald Trump s'en prend maintenant au Nigeria, qu'il accuse de tolérer les meurtres de chrétiens. Le président américain menace donc ce pays le plus peuplé d'Afrique d'une prochaine intervention militaire. Ces menaces américaines font suite à plusieurs mois de lobbying d'élus américains conservateurs qui estiment donc que les chrétiens font face, je cite, à un génocide au Nigeria.
France Inter, le journal de 13h. Éric Delvaux.
15 jours après le braquage du Louvre, 3 personnes soupçonnées d'avoir fait partie du commando sont désormais en détention provisoire. Une 4e personne est recherchée et toujours aucune trace des bijoux. Mais l'enquête progresse sur le profil des individus dont les traces ADN ont démontré que ces personnes étaient bien en contact. Et cela ouvre de nouvelles pistes. C'est ce que disait ce matin la procureure de Paris, Laure Bécuot.
Là, ce sont visiblement des gens de proximité. Ils habitaient tous plus ou moins en Seine-Saint-Denis. Certains sont liés, notamment le couple, parce qu'ils ont eu ensemble des enfants, par exemple. Donc, ils ont eu une vie commune importante. Mais ça m'étonne guère, parce que ce qu'on voit maintenant, c'est que on a des profils forcément pas très connus en criminalité organisée, qui montent assez vite sur des faits extrêmement graves de criminalité organisée réelle, pour le moins. Alors, il manque une personne au moins, puisque, comme dans toutes ces affaires de criminalité organisée, on s'est aperçu au gré des investigations menées par les enquêteurs qu'il y avait eu notamment l'emploi de ce qu'on appelle des véhicules relais. Vous savez aussi que la nacelle a été volée le 10 octobre, donc sont-ce les mêmes auteurs qui ont été à l'origine du vol de cette nacelle ou pas ? Les interpellations qui ont eu lieu de ces deux dernières mises en examen ont entraîné de nouvelles perquisitions qui ont elles-mêmes entraîné la saisie de nouveaux objets qui sont à leur tour exploités. Donc, nous tirons des fils qui, pour le moment, ne sont absolument pas rompus.
Voilà, la procureure de Paris, invitée ce matin nos confrères de France Info, elle estime aussi que le commando n'a pas profité de complicités internes au musée du Louvre. Et concernant les 8 bijoux volés il y a 15 jours, Laure Bécuot affirme que là aussi, toutes les pistes sont explorées, notamment les marchés parallèles de la revente. Des poupées sexuelles d'apparence enfantine proposées à la vente sur le réseau Shein. Et même si l'entreprise chinoise vient de retirer cet article, la direction de la répression des fraudes vient de saisir la justice. Mauvaise publicité donc pour Shein. À 3 jours de l'ouverture en France de la première boutique physique et non plus sur Internet, ce sera mercredi au BHV de Paris. Et ce projet d'ouverture d'un magasin Shein a déjà fait fuir certaines marques installées de longue date au BHV. Mais elles ne veulent pas apparaître à côté du symbole de la fast fashion accusée de polluer l'environnement et aussi de favoriser le travail indigne. Yann Rivo-Allan est le président de la Fédération du prêt-à-porter et il n'est pas surpris de voir le géant asiatique vendre des poupées sexuelles d'apparence enfantine.
En ma première réaction, c'est avant tout le dégoût. Comment est-ce que cette marque de la honte peut devenir désormais aussi ignoble après avoir détruit autant d'emplois en France, après avoir proposé des produits à 85% en plastique, après exploiter les gens dans la fabrication, après détruire la planète avec l'utilisation de centaines d'avions tous les jours, désormais, on attient l'ignominie la plus absolue. C'est la DGCCRF qui a remonté l'affaire. Donc, là aussi, c'est les organes de l'État qui ont été en fait dessus. Donc bien sûr, en fait, là maintenant, c'est même plus une question de pouvoir d'achat en fait qui existe. Désormais, c'est même plus une question de problème de concurrence déloyale que développe Shein depuis maintenant des années contre les marques françaises qui les détruisent les unes après les autres et tous les emplois qui vont avec. Maintenant, ça va beaucoup plus loin et c'est pour cela qu'il faut interdire cette société.
Yann Rivo-Allan, le président de la Fédération du prêt-à-porter. Les débats sur le budget reprendront demain à l'Assemblée nationale, mais il est hautement probable que l'on ne puisse pas aller au bout de l'examen dans les temps. C'est ce que redoute ce matin Philippe Juvin, LR, rapporteur général du budget. Et dans la tribune dimanche ce matin, le ministre de l'économie, Roland Lescure, dit tout le mal qu'il pense de certaines mesures déjà votées par les députés, comme la taxe sur les bénéfices des multinationales qu'il juge inapplicable. Les céréaliers français sont en colère et la FNSEA aussi contre la taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, taxe qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain. Les engrais azotés seront concernés parce qu'ils sont fabriqués à partir de gaz naturel. Édouard Marguier, les céréaliers estiment donc qu'ils ne pourront pas supporter cette taxe et ils demandent à Bruxelles de revoir la copie.
La France importe plus de la moitié des engrais qu'elle utilise depuis des pays situés en dehors de l'Union européenne. Nos agriculteurs sont donc dépendants et le montant de la taxe serait bien trop élevé selon le calcul de l'Association Générale des Producteurs de Blé.
On parle de 140 euros tonnes par exemple pour un engrais qui s'appelle l'urée, qui contient 46% d'azote ammoniacal. C'est complètement insupportable pour les agriculteurs.
Cédric Benoît est secrétaire général adjoint de cette association qui dépend de la FNSEA, lui-même céréalier dans le Loiret. Pour son exploitation de 160 hectares, ça lui coûterait 15 000 euros par an, soit un tiers de son bénéfice. En sachant que le contexte est défavorable, les cours mondiaux du blé sont au plus bas et ne couvrent déjà plus les coûts de production depuis 3 ans. La plupart des trésoreries sont dans le rouge.
Aujourd'hui, on vivait déjà une situation délicate là, depuis 6 mois, avec des exploitations qui étaient quand même assez fragilisées sur toute la France. Et là, en fait, les collègues qui m'appellent me disent « c'est quoi encore cette chose qui nous tombe sur le coin de la figure ?»
Le prix des engrais est en effet en hausse depuis la surtaxe européenne sur les importations depuis la Russie. Gros pays producteur dans le cadre des sanctions suite à la guerre en Ukraine.
Voilà à présent un problème que les personnes valides ne connaissent pas. Comment réparer son fauteuil roulant? Eh bien à Dijon, le club de basket fauteuil propose des ateliers pour apprendre à réparer et entretenir un fauteuil roulant, un peu sur le modèle des ateliers vélo. Ça s'appelle le Garage Solidaire. L'initiative est portée par l'une des joueuses de ce club, Maria Ernest Augustin. C'est un reportage de Thomas Vichard.
C'est un rituel, ou plutôt une obligation avant de démarrer les entraînements, vérifier la pression des pneus sur son fauteuil.
Là, il est suffisamment gonflé, donc je peux installer toute seule mes roues. Hop.
Ça, c'est quand on pratique le basket fauteuil, comme Maria Ernest Augustin. Mais il faut aussi le faire au quotidien, rappelle la joueuse de 18 ans.
Je regarde s'il n'y a pas de cheveux qui sont coincés dans les roulettes. Il y a plein de petits détails qui font que ça peut altérer notre autonomie et rendre notre quotidien beaucoup plus douloureux.
Important parce que ces bons tuyaux, les personnes en situation de handicap ne les ont pas tous en tête, témoigne Lucie Nollet, elle aussi joueuse à la JDA basket fauteuil et en fauteuil roulant.
On nous apprend pas forcément sur l'entretien des fauteuils quand on sort de centre de rééducation parce que déjà c'est pas la priorité. La priorité c'est l'humain. Mine de rien, il faut quand même savoir comment changer un pneu parce que si on crève dans la rue et qu'on sait pas changer, ça peut devenir vite compliqué.
Et puis vu le prix d'un fauteuil entre 5 000 et 8 000 euros, il vaut mieux en prendre soin, assure Damien Lordel, directeur sportif à la JDA Dijon Basket Fauteuil.
Il est important pour nous d'augmenter la durée de vie de nos fauteuils, un entretien quotidien pour que ça dure le plus longtemps possible.
Volonté aussi dans ce projet d'apprendre à customiser son fauteuil pour le rendre plus joli, plus en phase avec la personne en situation de handicap.
Reportage de Thomas Vichard, ici Bourgogne. C'était hier la Toussaint, journée de tous les saints. Ce dimanche est la journée de tous les morts, l'occasion d'aller fleurir la tombe d'un parent ou d'un proche. Et il ne faut pas oublier que certains meurent seuls, sans personne pour les inhumer ou leur rendre hommage. Alors à Rouen, l'association rouennaise pour l'adieu aux morts isolés se charge des cérémonies avec l'aide financière de la mairie. Exemple hier, avec cette cérémonie, c'était au cimetière de l'ouest de Rouen, pour éviter aux morts isolés donc un oubli complet. Reportage ici Normandie de Bastien Roch.
Jean-Pierre Mingot, 79 ans.
Les bénévoles de la RAMI égrènent les noms des 53 personnes désargentées qu'ils ont inhumées ici cette année.
Katia Moret, 58 ans.
Un devoir pour Dominique Lasnet, la présidente.
On fait un petit hommage sur le peu de renseignements que la mairie nous donne, qu'elle a obtenu, parce qu'il y a des moments où ils n'ont presque rien non plus. Il y en a, ils n'ont rien. Ils le méritent, tous ces gens-là. On leur donne quelque chose, on leur rend quelque chose qu'ils n'auraient jamais eu.
Des obsèques financées par la mairie, c'est la loi quand elles n'arrivent pas à retrouver des proches ou que ceux-ci et le défunt n'ont pas les moyens. C'est ce qui a permis à Patricia d'enterrer son frère ici, il y a 5 ans.
Il était SDF et puis ça l'a fragilisé et puis il est décédé. Je ne l'avais pas su, c'est ma petite fille qui m'a dit que mon frère, il était à la rue. Ces gens-là, Arami, ils nous ont aidés parce que moi je suis en RSA.
Ce cas-là reste une exception. La majorité des personnes accompagnées par l'Arami avaient un logement qu'elles occupaient seules et ne voyaient plus personne, explique Marie-Agnès Bigot, la secrétaire de l'association.
Il y a une fonction qui a un peu disparu dans les immeubles, c'est la fonction de gardien qui veillait quand même un peu à la vie des personnes qui étaient locataires et on ne trouve pratiquement plus ça.
À tel point que certains ont été retrouvés chez eux plusieurs semaines après leur décès.
Bastien Roch, ici Normandie. Le tennis, ce sera à partir de 15h, la finale du Masters 1000 de Paris entre le numéro 2 mondial, l'Italien Yannick Sinner, et le Canadien Félix Auger-Aliassime, 10e mondial. Bonjour Fabrice Abgral.
Bonjour.
Le Canadien vise un premier titre en Masters, mais l'Italien est largement favori, hein.
Ah oui, le grandissime favori hein, par rapport à tout ce qu'il a montré hein, depuis le début de la saison. Hein, faut-il rappeler qu'Yannick Sinner a disputé la finale des 4 grands chelems et qu'il en a remporté 2, l'Australie et Wimbledon. Et cette semaine, à Paris, bien, il n'a pas perdu le moindre set. Alors sachez que Yannick Sinner et Félix Auger-Aliassime ont 2 points communs. Le vainqueur enlèvera son premier titre au Masters 1000 de Paris et ils disputent tous les deux aujourd'hui leur première finale dans la capitale. Alors pour le reste, Félix Auger-Aliassime ne se présente pas en victime expiatoire, hein, mais il mesure évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, l'immensité du défi qui se présente à lui. Yannick Sinner est invaincu en salle depuis 2 ans, soit 25 victoires d'affilée dans ses conditions de jeu. Mais attention, le Canadien n'est pas maladroit non plus quand il y a un toit au-dessus de sa tête. Il a remporté 7 de ses 8 titres dans des tournois organisés en salle. Bref, il y a face à face aujourd'hui les deux meilleurs joueurs du monde en indoor. Alors s'il s'impose, Yannick Sinner remportera le 23e titre de sa carrière, le 5e en Masters 1000, mais surtout, il redeviendra numéro 1 mondial. Voilà, Félix Auger-Aliassime, lui, en cas de victoire, soulèvera son premier trophée en Masters 1000 et il remontera à la 6e place mondiale. Mais pour cela, il va devoir battre Yannick Sinner. C'est leur 5e confrontation. Alors le Canadien a gagné les 2 premières, c'était en 2022, mais en revanche, il a perdu les 2 dernières. C'était cette année à Cincinnati. Et en septembre dernier, en demi-finale de l'US Open.
Et la finale du Masters 1000 de Paris, donc ce sera à 15h. Et puis à l'instant, on apprend qu'Alizé Cornet vient d'être nommée capitaine de l'équipe de France de la Billie Jean King Cup. On l'apprend à l'instant, c'était Fabrice Abgral. Voilà maintenant un marathonien canet d'origine qui s'est lancé ce défi fou de boucler 7 marathons en une année. Eh bien ce dimanche, c'est le jour J pour Dorian Louvet, 36 ans, ancien candidat de Koh-Lanta. Après Tokyo, Boston, Londres, Sydney, Berlin et Chicago, Dorian Louvet sera donc au départ aujourd'hui du marathon de New York. Ce sera le départ à 14h30, 14h40 même, heure française.
Je suis comme un enfant à Noël, je suis super excité. J'ai attendu toute l'année la fin de cette aventure qui est incroyable. J'ai eu aucun pépin physique tout au long de l'année. C'était vraiment ma grande crainte à travers ce défi. Là, je vais très bien. J'emmène ma famille avec moi. Je suis heureux. Et en vrai, j'ai pas de pression parce que je suis soulagé de savoir que peu importe ce qui se passera sur mon marathon, ce défi, il est déjà réussi. Alors bien sûr, il y a un record du monde à aller chercher, la meilleure moyenne sur les 7 plus grands marathons du monde. Je pense que ce record du monde, je vais l'avoir aussi parce que j'ai quand même pas mal d'avance et sauf gros pépin physique, normalement, ça devrait le faire. Mais limite, aujourd'hui, c'est au second plan parce que le but du projet, c'était visiter le monde et les cultures à travers la course à pied et emmener avec moi un maximum de personnes. Et aujourd'hui, je pense que c'est chose faite.
Propos recueillis par ici Normandie. Voilà notre conseil sorti de ce dimanche dans les Bouches-du-Rhône. Visite du chantier archéologique de Fuveau. C'est au sud d'Aix-en-Provence. Il ouvre exceptionnellement ses portes ce week-end pour aller visiter une villa de l'Empire romain datant de près de 2000 ans. Les archéologues vont en profiter de cette journée pour faire découvrir non seulement leur métier, mais aussi partager leurs dernières découvertes. Reportage de Gabin Grulier.
Une pioche à la main, Coco et Christophe creusent la terre.
C'est à chaque fois la nouveauté, c'est la surprise, et voilà, il y a un côté magique.
Ça change du bureau.
Les deux archéologues dégagent un contrepoids de pressoir.
C'est quand même une pièce exceptionnelle.
Il y a près de 2000 ans, dans cette villa agricole, on pressait des olives ou du raisin.
Il faut absolument montrer ce qu'on a découvert. Quoi.
Bon, c'est important de faire connaître au public son histoire, son passé. Et ce sont des sites assez rares, quoi, conservés dans cet état.
Au sol, on voit des fondations, des élévations de murs. On peut même remarquer l'entrée des pièces. Hugo a hâte de le partager.
Montrer aux gens en quoi notre métier consiste, parce qu'il y a souvent beaucoup de, pas de fantasmes, entre guillemets, sur l'archéologie, mais on nous demande souvent si on trouve des trésors, des choses comme ça. De pas seulement s'intéresser, en fait, aux belles trouvailles à l'étranger, en Égypte, tout ça. On a des trésors ici, en fait. C'est bien qu'on puisse l'ouvrir pour que les gens puissent découvrir un peu le patrimoine, peut-être autour de chez eux.
Chloé, c'est toi qui as le plan ?
Philippe, le responsable du chantier, note tout sur un carnet.
C'est une présentation du site, mais au-delà, un peu globalement, du métier d'archéologue. Les techniques de fouille et leur expliquer comment on date, à quoi ça nous sert.
Et venir une fois voir ces vestiges avant qu'ils ne soient remplacés par une route.
Enfin, attention aux bain dans les Landes. Bain, c'est-à-dire petit bain en langue gasconne. Ces sortes de piscines creusées le long des plages sont un danger pour les baigneurs à cause des courants dirigés vers le large. Et même hors saison, eh bien les Les sauveteurs surveillent les nageurs. Exemple sur le kilomètre de plage de Vieux Boucau. C'est un reportage de Cédric Hermel.
On va être vigilant là sur le début de la marée montante, qu'il n'y ait pas de gens effectivement qui s'approchent de ce côté-là de la plage.
Ouais. Nicolas Charpentier ne rate rien de ce qui se passe devant lui sur le kilomètre de plage. Il est debout sur un petit promontoire d'où il voit tout.
Là, vous avez le phénomène de la montée d'eau là, vous voyez ? Hop, ça monte d'un coup là, vous voyez ?
À quelques dizaines de mètres sur le sable mouillé, un couple et leur chien.
Alors là, il n'y a pas de danger parce qu'ils sont habillés, ils ont pieds, ils sont sur le sable. Mais effectivement, s'ils avaient été en maillot avec une intention de rentrer dans l'eau, effectivement, on aurait été les alertés.
Ouais. En courant ou avec le petit buggy qui fait des rondes sur la plage toutes les 25 à 30 minutes.
Ça peut arriver des gens qui arrivent rapidement sur la plage par l'accès sud et qui vont s'avancer vers l'eau et qui vont se faire surprendre effectivement par des fortes houles ou des fortes montées d'eau. Ouais.
La plage centrale reste très fréquentée pendant l'automne, explique Thomas Espy, l'adjoint à la mairie.
On a une petite plage, on a un petit territoire, mais qui est alimenté par trois grosses entrées de plage. Donc on peut avoir vite, avec un rayon de soleil, beaucoup de monde qui vient se balader sur la plage et voir se baigner. L'eau est à 20 degrés, donc on y va largement en maillot. Et les courants, ils y sont toute l'année et tout le temps.
Les nageurs sauveteurs comme Nicolas aussi, pour éviter qu'un baigneur se retrouve emporté au large à cause d'une baïne.
Reportage de Cédric Hermel, ici Gascogne. Le temps, bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Le ciel va rester agité cet après-midi.
Oui, je l'ai dit ce matin, tout le monde aura droit à une averse aujourd'hui et ça se confirme avec cet après-midi, notre front secondaire qui poursuit son chemin. Cette bande avec des averses plus régulières et parfois orageuses se situe à présent entre l'Aquitaine et les Ardennes. De part et d'autre, on a un ciel de traîne, nuages, averses, éclaircies, on connaît le principe, hein, qui seront un petit peu plus larges, elles seront un petit peu plus larges, ces éclaircies sur un large quart nord-ouest jusqu'au bassin parisien et jusqu'aux Hauts-de-France. Éclaircies de retour également sur le pourtour méditerranéen. En revanche, sur la Corse, où le soleil brillait ce matin, là c'est le retour des averses qui pourraient même virer à l'orage. Et tout ça avec un vent d'ouest bien présent sur tout le territoire. Des rafales entre 40 et 60 km à l'heure, 70 même pour la tramontane.
Oui, les températures sont en baisse.
Oui, de quelques degrés, juste de quoi se rapprocher des normales de saison avec une moyenne de 12 à 17 du nord au sud. 12 à Lille, 14 à Paris, 15 à Strasbourg, 17 à Bordeaux, 19 à Nice ou 22 pour la maximale à Bastia.
Les prévisions de Céline Dacosta.